Nous sommes à Paris au printemps 2024. La ville frémit des préparatifs olympiques. Dans quelques mois, le monde entier aura les yeux fixés sur la scène. Des milliards de spectateurs et téléspectateurs prononceront en leur langue le nom des Jeux olympiques. Certains penseront aux origines grecques des Jeux qui, 2800 ans en arrière, remplaçaient les guerres par les confrontations sportives. 2800 ans très précisément, car selon la tradition grecque, les premiers Jeux olympiques auraient été organisés en 776 avant Jésus-Christ. Ces Jeux auraient réuni les représentants de différentes communautés grecques autour du sanctuaire de Zeus Olympien, non pas sur le mont Olympe, dans la Macédoine grecque, mais au nord-ouest du Péloponnèse, dans l'ancienne cité d'Élis. On dit souvent que le sport antique n'a pas grand-chose à voir avec nos compétitions modernes, impliquant des foules immenses et des enjeux financiers colossaux. Mais à y regarder de plus près, on se rend compte que même s'il n'y a pas de continuité entre les Jeux olympiques modernes et les Jeux olympiques antiques, les sociétés dans lesquelles le sport peut devenir une profession présentent des traits analogues. Jean-Paul Thuillier, éminent spécialiste du sport, de la civilisation romaine et de ses racines étrusques, a révélé bon nombre de ces ressemblances dans ses publications. Les humanités dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Bonjour Jean-Paul Thuillier.
Bonjour.
Vous êtes normalien, professeur émérite à l'École normale supérieure, ancien directeur de la recherche et des études littéraires et ancien directeur du département des sciences de l'Antiquité. Le sport et les lettres classiques sont deux disciplines qui ont toujours séduit les normaliens. Pourtant, vous êtes l'un des très rares spécialistes mondiaux du sport antique, voire peut-être le seul spécialiste de sport étrusque et romain. Pourquoi avez-vous choisi ce parcours et cette spécialité?
Il se trouve que je m'intéresse au sport depuis très longtemps, depuis mon enfance, parce que mon père était un rugbyman et m'a entraîné sur les gradins des stades pratiquement chaque dimanche. Et plus tard, quand je suis devenu effectivement normalien, que j'ai commencé à faire des recherches, j'ai découvert un jour qu'on pouvait faire des recherches sur le sport. Un auteur précédent que j'avais découvert au cours d'un séminaire avait fait cela pour le sport grec. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas travailler sur le sport étrusque, puisque les étrusques étaient devenus entre-temps ma spécialité. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Plus tard, je me suis plutôt orienté vers le sport romain parce que la documentation était beaucoup plus fournie dans ce domaine.
Alors là, vous parlez de l'aspect lettré de vos travaux sur le sport, mais vous n'avez jamais abandonné la pratique. Pendant vos études et vos travaux, vous continuez à pratiquer le sport.
Oui, moi, j'ai continué pendant longtemps à pratiquer le sport, où j'ai fait de l'athlétisme et surtout beaucoup de football. Et aujourd'hui, je m'intéresse toujours au sport, mais essentiellement en tant que spectateur. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une activité qui est fondamentale dans les sociétés antiques et dans la société contemporaine.
Et voilà, les auditeurs savent qu'on peut être normalien et footballeur. Le mot sport, c'est un mot récent du 19e siècle. Et ses racines ne semblent pas remonter au-delà de l'anglais disport qui aurait signifié au 15e distraction. Est-ce que vous pouvez compléter un peu cette étymologie brossée à grands traits?
Eh oui, puisque c'est une erreur. En réalité, il faut remonter au XIIIe siècle. Et en français, le terme existait déjà d'une certaine façon sous la forme d'esport, d'e-sport, qui implique l'idée d'amusement, de divertissement, se porter hors des choses sérieuses. Et puis, c'est vrai, le terme réapparaît en Angleterre sous la forme sport, donc, que le français adopte à ce moment-là au long du 19e siècle. Mais comme le mot flirter, c'est un mot d'origine française, il ne faut jamais l'oublier.
Alors, est-ce qu'on peut parler dans l'Antiquité de sport comme on en parle aujourd'hui? Et quels seraient les concepts grecs, étrusques, romains de ce sport?
Alors, certains de mes collègues n'aiment pas qu'on emploie le mot sport pour l'Antiquité, puisque précisément ils considèrent que c'est une réalité sociale qui ne saurait remonter au-delà du XIXe siècle. Mais me paraît absurde de ne pas employer le terme de sport pour parler de toutes ces activités que faisaient les Grecs et les Romains et qui ressemblent d'assez près à ce que nous connaissons. Alors, nous parlons à l'instant des Jeux olympiques, mais en réalité, le mot grec pour ces manifestations, c'était le mot agon, au pluriel agones, qui implique l'idée de rassemblement, de concours, de compétition, de confrontation. Et c'est pour ça d'ailleurs que les hellénistes préfèrent employer le terme de concours plutôt que le terme de jeu pour parler de ces manifestations à Olympie et dans bien d'autres cités de la Grèce antique. Alors pour Rome, c'est le terme ludi qu'on emploiera, les jeux. Hein, là, on retrouve le terme de jeu, et en particulier, beaucoup ont déjà entendu parler des ludi circenses, de ces jeux du cirque, parce qu'on connaît souvent la formule de Juvénal, disant que les Romains se passionnaient uniquement pour le pain et les jeux du cirque.
Et chez les Étrusques, alors ?
Pour les Étrusques, malheureusement, je peux difficilement vous apporter une solution puisque nous connaissons mal l'Étrusque et surtout, nous connaissons très peu le lexique étrusque. Et j'aimerais beaucoup, si au cours de ma carrière, j'avais pu découvrir le mot correspondant au ludi romain en étrusque, je serais absolument ravi. Mais peut-être ce mot a-t-il une étymologie étrusque ? C'est difficile à prouver.
Alors, en cette année olympique, on parle beaucoup des Jeux olympiques antiques, qu'il faut bien évidemment distinguer des Olympiades, c'est-à-dire des cycles de 4 ans qui séparaient deux Jeux olympiques. Mais pourriez-vous nous expliquer en quoi consistaient ces Jeux antiques, du point de vue des épreuves sportives, des événements religieux et politiques qui les accompagnaient ?
Alors, ces Jeux, entre guillemets, ces concours, se passaient donc dans un sanctuaire, qui était un des plus grands sanctuaires de la Grèce antique, à Olympie, dans le nord-ouest du Péloponnèse, et à côté de toute une série de cérémonies religieuses, de sacrifices, de processions, il y avait donc des épreuves sportives, des épreuves hippiques d'un côté, avec des courses de chars ou des courses de chevaux, et d'autre part, de chevaux montés, et d'autre part, des épreuves athlétiques qu'on peut résumer sous trois groupes. Il y a d'une part les courses à pied, essentiellement sur un stade, c'est-à-dire sur environ 180 mètres de long. Hein, c'est le même mot que pour l'édifice stade. Le double stade, qui s'appelait le diolos, et une course de fond, une course longue qui s'appelait le dolichos. À côté, il y a le pentathlon, qui, comme son nom l'indique, regroupait cinq épreuves, lancer du disque, lancer du javelot, saut en longueur, course à pied sur un stade et lutte. Et enfin, troisième groupe, les sports de combat, c'est-à-dire le pugilat, le pancrace et la lutte. Et tout cela se terminait par la course armée qui symbolisait en quelque sorte la fin des épreuves et le retour des affaires normales en Grèce, c'est-à-dire de la guerre.
Alors, il y a un lieu commun sur les Jeux olympiques antiques, c'est que toute guerre s'arrêtait pendant qu'ils avaient lieu. Est-ce que c'est vrai ?
C'est trop beau pour être vrai. En réalité, il y avait une trêve, mais cette trêve consistait essentiellement à ne pas attaquer le site même d'Olympie, le sanctuaire d'Olympie pendant les Jeux, et surtout à permettre aux athlètes et à leurs familles, à leurs entraîneurs, et à tous les spectateurs, tous les pèlerins qui étaient enthousiasmés à l'idée de ce spectacle, de pouvoir venir à Olympie sans risquer leur vie à chaque fois. C'était en ça que consistait la trêve, et non pas, la trêve ne consistait pas à arrêter toutes les guerres dans tout le monde méditerranéen, ce qui évidemment aurait été extrêmement bien, mais malheureusement, il est rare que les choses se passent de cette façon.
Et les Romains ? Est-ce que le sport romain est fondamentalement différent du sport grec ?
Alors oui, il est fondamentalement différent. Certes, il y a beaucoup de ressemblances. Bien sûr, les courses de chars sont une de ces ressemblances. Techniquement, il y a beaucoup de ressemblances. Mais il y a vraiment des différences fondamentales de ce point de vue entre la Grèce et Rome. Tous les citoyens, qu'ils soient grecs et romains, ont fait des exercices sportifs pour s'entraîner, ne serait-ce que pour s'entraîner à la guerre, pour devenir légionnaire à Rome, par exemple, contrairement à ce que l'on pense suivant. Et les Grecs s'entraînaient dans le gymnase, dans les palestres, le mot venant d'ailleurs du mot grec palais, qui veut dire la lutte. Mais du point de vue de la mentalité, de l'idéologie, de l'identité de Rome et de la Grèce, c'est fondamentalement différent. En Grèce, être champion olympique, c'est la plus grande marque de gloire qu'un citoyen puisse obtenir. Déjà dans les épopées homériques, dans l'Odyssée et dans l'Iliade, on voit revenir cette maxime pour un citoyen grec et surtout pour un aristocrate grec. Il faut toujours être le meilleur et il faut toujours surpasser tous les autres. Alors que pour un citoyen romain, la participation en public à une compétition, c'est le début du déshonneur. C'est une différence qui est parfaitement mise en lumière par un historien qui s'appelait Cornelius Nepos, un contemporain de Cicéron, et qui évidemment est, du point de vue des mentalités de chaque peuple, essentiel.
Est-ce qu'on en sait plus sur le cas des Étrusques ?
Alors, les Étrusques, heureusement, par rapport à beaucoup d'ignorance que nous avons sur ce peuple, et en particulier en ce qui concerne la langue, comme je le disais à l'instant, pour les Étrusques, il est clair que ce sont aussi des professionnels, sans doute des esclaves entre guillemets, parce qu'on ne connaît pas bien le système social, la structure sociale de la société étrusque, qui étaient les concurrents aux différents jeux, qu'ils soient athlétiques ou hippiques. Et c'était la même chose après, à Rome, et c'est un des points sur lesquels les Étrusques ont eu une influence sur le monde romain. Ce n'est pas le seul cas, mais celui-là aussi est important.
Cordes de Théodore Kousmartis sur un morceau qu'il a également composé et qui s'intitule « Les Étrusques ». Mais revenons à notre entretien avec Jean-Paul Thuillet qui nous parle aujourd'hui du sport dans l'Antiquité. Pour la bibliothèque Les Humanités dans le texte, vous avez choisi un texte qui ne parle guère des sportifs, mais plutôt du public qui consomme le sport. Pourquoi ce choix et en quoi est-ce que ce commerce du sport, ce spectacle sportif est intéressant pour comprendre la place du sport dans la société romaine ?
Bah, c'est intéressant parce que c'est à Rome surtout, mais déjà en Grèce. On a parfois tendance à dire que les Jeux olympiques en Grèce, les concours olympiques en Grèce, étaient suivis par un public beaucoup moins important. Mais quand même, il y avait sans doute 50 000 spectateurs environ à Olympie au moment des Jeux, ce qui faisait de ce rassemblement le plus important de toute la Grèce antique. Donc là, déjà, on voit ce que pouvaient représenter les Jeux. Et à Rome, dans le grand cirque de Rome, il y avait 150 000 spectateurs. Donc ça doit nous parler. Et on voit bien que la présence de ce public est quelque chose qui, du point de vue de la société romaine, est aussi quelque chose de fondamental et qui mérite d'être regardé de plus près avec toutes les passions des supporters qui pouvaient s'exprimer.
Alors le grand cirque de Rome, c'est le Circus Maximus ?
Le Circus Maximus, oui.
On connaît davantage le Colisée aujourd'hui. Par comparaison, le Colisée pouvait accueillir combien de personnes ?
Il pouvait accueillir environ, dans le meilleur des cas, 80 000 spectateurs, c'est-à-dire qu'il est deux fois moins important en tant qu'édifice de spectacle sportif, si on peut appeler la gladiature un sport, par ailleurs. C'est une autre question. Mais le grand cirque, c'est quelque chose de colossal. 600 mètres de long, 150 mètres de large. Je disais 150 000 spectateurs, c'est certainement le chiffre bas pour la capacité. Et ça a été pendant très longtemps le plus grand édifice de spectacle sportif du monde, jusqu'à ce qu'il y ait le Maracana de Rio avec 200 000 spectateurs. Et aujourd'hui, c'est fini. Le Maracana n'a plus que 80 000 spectateurs également. Et je rappelle qu'en France, le Stade de France n'a qu'une capacité de 80 000 spectateurs également. Vous voyez que les Romains, de ce point de vue, nous écrasent totalement.
Alors, dans les humanités dans le texte, nous avons pour habitude de lire le texte dans la langue d'origine et d'en proposer une traduction en français. Nous allons donc lire un passage de cette lettre de Pline le Jeune que vous avez choisie pour nous. Vous allez en lire la version latine et j'en lirai la traduction française.
Omne hoc tempus inter pugilares ac libellos jucundissima quiete transmisi.
Tout le temps qui vient de s'écouler, je l'ai passé entre mes tablettes et mes petits livres dans le plus délicieux repos.
Quem ad modum in quis in urbe potuisti?
Comment, dites-vous, serait-ce possible à la ville?
Circenses erant, quo genere spectaculi, né levissime quidem teneor.
C'était les jeux du cirque, genre de spectacle qui ne me séduit à aucun degré.
Nil novum, nil varium, nil quod non semel spectace sufficiat.
Là-dedans, rien de nouveau, rien de varié, rien qu'il ne soit assez d'avoir vu une seule fois.
Quo magis miror, tot milia virorum, tam pueriliter, identidem cupere, currentes equos, insistentes curibus homines, videre.
Aussi suis-je étonné que tant de milliers d'hommes soient sans cesse repris, comme de grands enfants, du désir de voir des chevaux lancés à la course, des concurrents debout sur leurs chars.
Sit amen, aut velocitate equorum, aut hominum arte traerentur, et cette radio non nulla. Nunc, favent pano, panum amant, et si in ipso cursu, medioque cartamine, hic color, iluc, ille huc transferatur, studium favorque transibit, et repente, agitatores illos, equos illos, quos procul noscitant, quorum clamitant nomina, relinquent.
Si encore il s'intéressait soit à la rapidité des chevaux, soit à la technique des concurrents, ce goût pourrait s'expliquer. Mais c'est la casaque dont ils sont les supporters. C'est la casaque qu'ils aiment. Et si en pleine course et au beau milieu de la compétition, la première couleur passait au second cocher et la seconde au premier, leur passion de supporter serait aussitôt transférée et tout à coup, les fameux cochers de quadrige, les fameux chevaux qu'ils ont l'habitude de reconnaître de loin, dont ils ne cessent d'acclamer les noms, seraient plantés là.
Tanta gratia, tanta auctoritas, in una willissima tunica, mito apud vulgus, quod vilius tunica, sed acus quosdam graves homines, quos ego cum recordor, in re inani frigida adsidua tam insatiabiliter desidere, capio aliquam voluptatem, quod ac voluptate non capio.
Une telle faveur, une telle valeur accordée à une misérable tunique, on les trouve non seulement dans la foule plus misérable encore que la tunique, mais même chez certains hommes sérieux. Quand je pense que c'est ce spectacle futile, fade, monotone, qui les cloue à leur place, jamais rassasié, je prends quelque plaisir à ne pas être pris par ce plaisir.
Donc voilà notre Pline le Jeune, qui écrit à la fin du 1er siècle de notre ère, autour de 100 de notre ère, qui indique à son correspondant que donc il a pu se livrer à ses travaux intellectuels sans problème pendant un certain temps. Pourquoi, lui demande son correspondant, alors que dans la ville, in urbe, chacun sait qu'il y a un bruit infernal. C'est un thème qui revient très souvent chez les auteurs anciens, qui a été repris pour les embarras de Paris, par exemple, par Boileau. Mais il y a un cas exceptionnel, c'est que c'était les Jeux du Cirque. C'était les Jeux du Cirque. Et pendant les Jeux du Cirque, effectivement, tout Rome est au cirque. Juvénal disait « tota Roma ». Exagération, naturellement, puisque Rome avait à cette époque environ 1 million d'habitants. Et bon, on ne peut pas penser qu'il y avait 1 million d'habitants puisque la capacité était de 150. Mais on se précipitait, on faisait la queue pour rentrer, pour avoir les places gratuites. On faisait trop de bruit et ça dérangeait l'empereur qui était dans son palais juste au-dessus du Grand Cirque, sur le Palatin. C'est exactement comme... C'est une journée particulière, comme on l'a dans le film d'Ettore Scola, où pour un autre type de spectacle, malheureusement, tous les Romains sont obligés d'aller assister à la rencontre entre Mussolini et Hitler. Eh bien là, c'était un petit peu ça. La ville était vide et les voleurs, les cambrioleurs pouvaient s'en donner à cœur joie. Et il fallait multiplier les patrouilles pour éviter. Et ça rappelle ce qui se passe maintenant pour le domicile de certaines stars du foot pendant les matchs. Et après, on a les critiques de l'intellectuel, de l'aristocrate intellectuel Képline, qui évidemment trouve ça monotone, comme encore beaucoup de gens aujourd'hui, qui, lorsqu'ils n'aiment pas le sport, disent que, effectivement, tout ça, tous les matchs sont toujours pareils. Et ce qui est intéressant, c'est que non, il faut revenir un petit peu en arrière, c'est que là, ça nous donne une indication sur la façon dont les cochers se présentaient. Il nous fait remarquer que les cochers sont debout sur les chars, et ça permet de rappeler que dans les courses de chars, les cochers n'étaient pas assis comme aujourd'hui, dans des courses qui sont des courses de trot. Dans l'Antiquité, ce sont des courses de galop. Et les risques de chute, les risques de tomber étaient considérables. Et c'est là qu'on retrouve les influences étrusques, puisque pour éviter de perdre les guides, les cochers romains avaient l'habitude de nouer les guides autour de leur taille, avec tous les dangers qui existaient en cas de chute. On a ensuite le point le plus important qui montre que Pline ne comprend rien à ce qu'est un supporter. Il suppose que si leur cocher favori passait sur un autre char, eh bien il ne le suivrait pas. Mais Pline ne comprend pas que ce qui intéresse les spectateurs, c'est la couleur, c'est la tunique, c'est le maillot, comme aujourd'hui, pour les joueurs de foot. Et ce n'est pas parce qu'un joueur est transféré que le public le suit dans son nouveau club.
Alors, vous nous avez décrit précisément la façon dont se tenaient les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pourriez nous décrire la façon dont se tiennent ces Jeux du cirque ?
Oui, alors, toute l'organisation repose donc sur l'existence de ces quatre clubs, de ces quatre couleurs, qui fournissaient les chevaux, les chars et les cochers, et qui les entraînaient. L'empereur ou les magistrats auparavant sous la République finançaient ce spectacle, et ces clubs avaient des locaux somptueux, avaient des produits dérivés, avaient des clubs de supporters de tifosi à côté d'eux et transféraient éventuellement les champions, les stars, d'une couleur à une autre parce que ça leur rapportait de l'argent. Et ces superstars pouvaient avoir leur statut, par exemple, dans la ville. C'est comme aujourd'hui, certains footballeurs, mais très rarement, ont leur statut dans certaines villes.
Alors, que pourriez-vous dire aux enseignants de latin, de grec, de lettres classiques des collèges et des lycées français qui souhaiteraient promouvoir la recherche et l'intérêt pour le sport antique ?
Je crois qu'on peut faire des cours sur ce sujet à partir de textes latins ou alors en traduction, si ça ne sont pas, les élèves ne sont pas latinistes. Il y en a beaucoup, comme ce texte de Pline que je viens de montrer. Et c'est même intéressant de voir que les auteurs anciens sont toujours très connaisseurs de ces réalités sportives. Hein, je disais du mal de cet intellectuel de Pline le Jeune à l'instant, mais en réalité, d'ailleurs, on voit bien qu'il connaît, il sait bien comment les choses se passent dans le cirque, et c'est souvent le cas. Par ailleurs, il y a un nombre d'images considérables que l'on peut commenter, avec en particulier de superbes mosaïques montrant des courses de chars, avec les différentes couleurs des cochers et les différents éléments d'un cirque qui permettent d'expliquer beaucoup de choses. Et puis après, il y a aussi la possibilité d'aller à Rome, naturellement, avec un groupe scolaire, mais cela se fait quand même assez souvent.
Il y a aussi la possibilité de lire vos ouvrages, Jean-Paul Thuillet. On recommandera en particulier « Allez les Rouges, les Jeux du cirque en Étrurie et à Rome », paru aux presses de l'École normale supérieure en 2018, ou également le sport antique. Vous avez publié une synthèse qui s'intitule tout simplement « Le sport dans la Rome antique », pardon, chez Errance en 1996. Est-ce que vous avez, je ne vais pas citer tous vos ouvrages, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous aimeriez citer qui permettrait de compléter ce petit tableau ?
Oui, il se trouve que j'ai écrit aussi avec un collègue allemand « Le sport dans l'Antiquité », qui porte sur l'Égypte, sur la Grèce, sur l'Étrurie et sur Rome, et qui va être réédité dans les semaines qui viennent.
Merci Jean-Paul Thuillet. Ce podcast vous a été présenté par Émile Gayoso, responsabilité scientifique en Cadane. Et on se quitte comme d'habitude en arpentant les dédales de Carole Beffa.